Bien, nous allons continuer ce que nous avions commencé les dernières fois, notre parcours d'études sur la question de l'argent. Donc nous avions fait déjà deux prédications à ce propos et aujourd'hui nous allons avoir la dernière. Donc ce sera la dernière aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on va au finish. Donc voilà. Ça terminera quand ça terminera. Et donc aujourd'hui, nous allons en particulier nous intéresser, on a vu, si vous vous rappelez les dernières fois, on a vu les signes d'une domination de mammon. Donc les signes qui montrent que quelqu'un ou qu'une personne, qu'une église, qu'un groupe de personnes est sous la domination de l'argent, de l'idole de l'argent, du dieu argent. Et donc on avait détaillé en disant, mais voilà, il y a tout un ensemble de caractéristiques qui montrent qu'on est sous cette domination. Et ce matin, nous allons beaucoup plus nous intéresser à une attitude biblique face à l'argent. La dernière fois, on a vu un petit peu le négatif, qu'est-ce qu'on ne doit pas être, qu'est-ce qu'on ne doit pas trouver chez nous. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir, ben tiens, quelle devrait être, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, notre attitude face à l'argent. Donc, une attitude biblique, une attitude scripturaire face à l'argent. Premièrement, la première chose, la première grande caractéristique de comment est-ce que nous devons nous situer face à l'argent, c'est nous situer comme gestionnaire et non pas comme propriétaire. Ça, c'est vraiment une phrase qu'on peut retenir, et c'est vrai pour l'argent, et vous allez voir que c'est vrai pour plein de choses dans la vie. Devant Dieu, nous devons nous considérer comme des gestionnaires et non pas comme des propriétaires. Alors, premièrement, on a Agé 2, verset 8, qui nous dit, c'est un verset bien connu, qui nous dit « L'or et l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel ». Et le psaume 24, verset 1, psaume de David, « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Donc on a dans ces deux versets-là une réalité qui nous est présentée, c'est que toute chose appartient à Dieu. Toute chose sur cette terre appartient à Dieu. L'or, l'argent, tout ce qui est contenu sur la terre, les minerais, les richesses, tout appartient à Dieu. Il est celui qui est le propriétaire du monde entier. Et donc, selon le premier verset, il est le propriétaire des richesses. Propriétaire de l'or, propriétaire de l'argent. Et donc la seule position qu'a l'homme, c'est une position de gérer les richesses qui appartiennent à Dieu. Dans notre vie, nous avons une position dans laquelle Dieu nous donne de gérer les richesses qu'il nous confie. Nous ne sommes pas les propriétaires de nos biens, même si on peut être légalement propriétaire, mais bibliquement parlant, nous sommes juste les gens qui reçoivent des biens et qui sont appelés à les gérer devant Dieu, pour Dieu. Donc, Dieu est celui à qui appartiennent toutes choses. Il est le Dieu à qui appartiennent l'or. Ah, il fonctionne. Voilà. Ah là là, Anthony, que ferions-nous sans toi? Tout appartient à Dieu. Alors, ça nous amène donc à une position de gestionnaire ou ce qu'on appelle aussi dans la Bible une position d'intendant. Donc vous savez bien qu'un intendant, c'est quelqu'un qui gère les choses, qui gère des biens. Donc nous sommes tous appelés à être devant Dieu des gestionnaires et des intendants des choses qu'il nous confie. Plutôt que d'avoir le sentiment d'être propriétaire, de posséder, d'être le maître de la chose, nous sommes appelés à être les intendants, les gestionnaires des choses, c'est-à-dire à ne pas être possédé par la richesse, mais à simplement gérer. Ça veut dire, en d'autres termes, acquérir en nous-mêmes la certitude intérieure que nous ne sommes sur la terre que les intendants, les gestionnaires des richesses que Dieu donne. Les biens matériels nous sont donnés pour le bien de notre famille, pour l'avancement du royaume, pour nos entreprises. Nous ne sommes que les intendants des biens de Dieu. Nous ne sommes les propriétaires de rien. Et ça, c'est une réalité qui doit prendre vie dans notre vie, parce qu'elle peut être très très théorique, mais ça veut dire que dans ma vie, tout ce que j'ai, ça ne m'appartient pas, c'est Dieu qui me le donne pour que je le gère. C'est Dieu qui me le donne pour que je le gère. Prenons un exemple pour voir ça. Qui n'a jamais été pris en exemple ici? Il y en a qui y sont déjà passés, mais il y en a qui ne sont pas encore passés. Qui n'a pas encore passé?
Céline, tu n'es jamais passé, toi. Imaginez que Céline et David disent, ben voilà, nous deux, on veut partir pendant un an au Paraguay. On part pendant un an au Paraguay. Alors ils vont me dire, ben oui, tu sais, on a de la famille, mais on n'a pas trop confiance. On a de la famille, ils habitent à Manage et autres, mais on n'a pas trop confiance. Le seul en qui on est confiant, c'est toi. C'est le seul, tu es le seul en qui on est confiant. Et donc on part pendant un an, et donc on te laisse la maison. Et toi, ton rôle, c'est d'être à la maison, de nourrir les animaux, de donner de l'eau aux plantes, etc. Je vais rester un an chez eux, mais je vais faire plein de choses chez eux. Je vais manger, je vais boire, je vais inviter des amis, je vais faire des fêtes. Les voitures, ils vont me les laisser, donc je vais conduire les voitures, etc. Pardon ? Oui, c'est dangereux, oui, oui. Mais c'est pas grave. Ils auront choisi de faire ça. C'est eux qui l'auront fait. Et Anne va dire, mais oui, faites-lui confiance. Moi aussi, j'ai confiance. Il y aura tout ça. Et donc, pendant un an, je vais paraître comme étant le propriétaire de toutes ces choses-là. Mais en réalité, je ne serai que le gestionnaire. Toutes les choses que je vais toucher dans cette maison, toutes les choses que je vais utiliser, que je vais manger, que je vais boire, quel que soit ce que je vais faire, ce sera toujours comme un gestionnaire des choses qui ne sont pas à moi. Et même si un jour je suis avec leur voiture en train de rouler et que je me gare, et puis je vais dire à quelqu'un, j'ai garé ma voiture là-bas, façon de parler, même si ce n'est pas la mienne, mais je dirais c'est ma voiture. Mais à l'intérieur de moi, je saurai que je ne suis que le gestionnaire d'une voiture qui n'est pas à moi. Et donc dans ma façon de me comporter vis-à-vis des biens, vis-à-vis des choses, je ne devrais pas oublier que je ne suis qu'en train de gérer les choses qui ne sont pas à moi. Et ça, c'est fondamental pour notre gestion, pour la gestion de notre vie. C'est de ça que tout dépend. Notre libéralité ou pas, notre générosité ou pas, le fait que nous soyons sous la domination de maman ou pas, dépend de ça. Est-ce que tu te considères comme le propriétaire de tes biens, c'est à moi? Ou est-ce que tu es conscient que les choses que tu as, c'est Dieu qui te les donne, c'est Dieu qui te les prête pour que tu puisses les gérer? Et dans cette perspective-là, notre argent appartient à Dieu. Et regardez 1 Chronique 29, verset 14. Tout cela vient de toi et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Ça, c'est fondamental. C'est de ta main que nous recevons ce que nous te donnons. Le chrétien considère que dans sa vie, tout ce qu'il a, il le reçoit de la main de Dieu. C'est ça être gestionnaire. Je suis conscient que je le reçois de la main de Dieu. Et ça, c'est vrai pour l'argent, mais c'est vrai pour tout. Tout ce que nous avons, nous le recevons de la main de Dieu. L'apôtre va dire, les dons que tu as, les capacités que tu as, tu les reçois de la main de Dieu. La famille que tu as, tu la reçois de la main de Dieu. Ton épouse, ton mari, tu le reçois de la main de Dieu. Tes opportunités de travail, tu le reçois de la main de Dieu. Le chrétien, c'est ça sa position. Tout ce qu'il a, il le reçoit de sa main. Nous le recevons de ta main. Et donc, nous considérons que chaque chose qu'il y a dans notre vie, c'est Dieu qui nous les donne pour que nous les gérions. Et donc, même lorsque nous lui offrons, c'est ça aussi qui ouvre la porte à la libéralité, c'est que nous sommes conscients que même si les choses sont entre nos mains et que nous les donnons à Dieu, ben, en fait, nous ne faisons que lui rendre les choses qu'il nous a données. Nous ne faisons que lui rendre les choses qu'il nous a données. C'est de ta main que nous recevons toutes choses. Et ça, c'est une position qui peut vraiment changer notre façon de voir les choses. Même les personnes qui vous agacent, vous pouvez dire, je le reçois de la main de Dieu. Je le reçois de la main de Dieu. Ceux qui étaient au camp de famille l'année passée, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Qui se rappelle ce qu'on avait dit? Accueille le mystère de ton conjoint. Vous vous rappelez de ça? Soit. De toute façon, bon. C'était. Et alors on disait, quand on dit accueille le mystère de ton conjoint, ça veut dire reçois ton conjoint de la main de Dieu. Considère-le comme étant un don de Dieu pour toi. Considère que c'est le cadeau que Dieu te donne et sois reconnaissant. Ça nous ouvre la porte à la reconnaissance. Quand on voit tout ce qu'il y a dans notre vie comme étant un don de Dieu, nous sommes reconnaissants. Et nous disons merci Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit abondez en actions de grâce. Abondez en actions de grâce. Vous savez que les Juifs disent à peu près 100 bénédictions par jour. Et il y en a des différentes pour tout. Quand ils mangent un fruit, merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes ce fruit. Quand ils voient un arc-en-ciel, merci Seigneur pour ton alliance envers le monde. Quand ils voient une belle chose, merci Seigneur. Une peinture, merci Seigneur. Ils apprennent, on apprend aux enfants à s'émerveiller des choses qu'ils voient et à bénir Dieu pour ce qu'ils voient. Et nous devons apprendre à vivre comme des gens reconnaissants, qui reçoivent les choses de la main de Dieu. C'est de ta main que nous recevons ces choses. Donc le chrétien n'est reconnaissant du fruit de son travail qu'à Dieu, et il se considère comme un intendant des biens reçus des hommes de la part de Dieu. Donc même lorsque le patron paye ton salaire, eh bien la position intérieure du chrétien, la disposition intérieure du chrétien, c'est « Seigneur, je considère que ça vient de toi, que cet argent vient de toi ». Et cela nous appelle donc à être un bon intendant, c'est-à-dire à prendre conscience que nous disposons d'abord des biens matériels pour accomplir la volonté de Dieu. Si ce n'est pas à moi, je ne fais pas ce que je veux avec. Et ça, en droit, ça s'appelle la libre disposition des biens. La voiture de Céline, je ne peux pas la vendre. Elle n'est pas à moi. Mais même si je la vendais, Céline ne m'en voudrait pas parce qu'elle n'est pas comme ça. Mais ce n'est pas à moi, ce n'est pas ma voiture. Et donc, je dois gérer cette voiture-là en fonction de ce qu'elle aurait souhaité. Je ne peux pas non plus tuner sa voiture. Hein ? Vous savez ce que c'est le tuning ? Je ne peux pas faire ça, parce que ce n'est pas à moi. De la même façon, si nous recevons nos biens de la main de Dieu, nous devons considérer que je dois gérer ces biens-là selon Dieu, comme Dieu, selon la volonté de Dieu. Et donc, donner de l'argent à Dieu, c'est une façon de confesser que nous sommes les intendants, les gestionnaires des biens que l'on a reçus. C'est une façon de dire, Seigneur, c'est de toi que je le reçois et donc je manifeste que j'en suis conscient. Je suis conscient que ça vient de toi. Cet argent ne m'appartient pas, je l'ai reçu de Dieu pour le gérer. C'est ça un peu la mentalité. Cet argent n'est pas à moi, je l'ai reçu de Dieu pour le gérer. Recevoir tout de sa main. On a vu 1 Chronique 29, verset 14, et alors 1 Chronique 29, verset 7 dit « Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bénir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. C'est de ta main que nous les avons reçues. » Apprenons à vivre comme ça, avec des petites choses de la vie. Dire « ça c'est de la main de Dieu ». Ça, c'est de la main de Dieu. Même quand on mange, quand on boit, quand on a... Est-ce que vous imaginez ? Prenez conscience de tout ce que vous avez dans vos maisons. Nos maisons sont remplies de biens, remplies de choses qu'on a achetées. Il y en a, ils ont des outillages à n'en plus finir. Il y en a, c'est des casseroles. On a des maisons remplies de biens. Et si on apprenait à recevoir toutes ces choses de la main de Dieu, à être reconnaissant pour tout ce qu'il donne ? Recevoir tout de sa main. On va encore en parler beaucoup de ça, parce que c'est vraiment important. Et ça change, ça modifie vraiment l'état dans lequel notre monde est, un état de morosité, dans lequel on est toujours plongé autour de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on n'a pas, mais on n'est pas reconnaissant pour tout ce qu'on a. Et vous savez que le péché originel, le péché d'Adam et Ève, c'est aussi un péché de manque de reconnaissance. Vous pouvez avoir tout le jardin, on vous donne tout. Et vous allez juste aller prendre ce qu'on ne vous donne pas. Apprenons à être reconnaissants à Dieu pour tout ce que nous avons. Et quand on est reconnaissant, on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup plus que ce qu'on croyait qu'on avait. Alors, une proclamation de foi, on l'a déjà vue la dernière fois, donc on ne va pas la relire, mais j'invite vraiment chacun à s'arrêter sur cette proclamation de foi qui est la proclamation de foi de celui qui dit « Seigneur, tu pourvois pour moi ». Mes sources sont en toi. Quand on dit mes sources sont en toi, ça veut dire tout vient de toi. Tu t'occupes des oiseaux du ciel et des lys sauvages. À plus forte raison, tu t'occuperas de moi. Tu t'occuperas de moi, je le crois. Je crois que tu t'occupes de moi. Je crois que tu pourvois mes besoins. Je crois que tu as tout prévu. Je crois que tes projets sont bons. Merci Seigneur. Proclamons vraiment notre foi. Même si vous ne savez pas lire, ce n'est pas grave. Donc nous sommes appelés à bien gérer les richesses confiées. Et donc le mot économie en grec, c'est oikonomia, qui est composé de deux mots, oikos, maison, nomos, gérer, administrer. Donc oikos, là, ce n'est pas le yaourt qui est délicieux. Mais il est délicieux ce yaourt, hein, attention. Donc c'est oikos, nomos, maison, gérer la maison, administrer la maison. Donc l'économie, c'est gérer la maison, gérer les biens que Dieu nous donne. Et donc administrer ou gérer les biens de la famille, il s'agit de bien répartir les ressources en fonction des besoins. C'est ça gérer. C'est bien répartir les ressources en fonction des besoins. J'ai une somme d'argent, j'ai une somme de richesse et je vais répartir chaque chose en fonction des besoins. Et dans les maisons, c'est ce que tout le monde fait. Tous les pères, mères de famille font ça. Il y a de l'argent qui rentre et on va dire, ben voilà, on va consacrer ça à telle chose, ça à telle chose, ça à telle chose. On gère les biens qui nous sont donnés en fonction des besoins. On répartit les biens selon les besoins. Et donc c'est ça notre appel, bien gérer les richesses qui nous sont confiées. Nous sommes nommés donc intendants. Alors, on ne va pas lire les versets, mais vous allez simplement voir que une grande majorité des paraboles de Jésus sont des paraboles qui impliquent des intendants. Donc, vous connaissez la parabole des talents, mais c'est ça, hein. C'est le maître qui s'en va et qui confie des choses, et puis qui revient et qui dit « qu'est-ce que vous avez fait ?» Et il y a plein de paraboles comme ça. Donc, la question de l'intendance, elle est centrale dans le Nouveau Testament. On est gestionnaire. Et donc, il y a tout un ensemble de versets où Jésus nous compare à des intendants. Alors, Aristote, qui est un philosophe, avait utiliser justement une distinction qui peut nous aider à comprendre ce que c'est. Dans une lettre qu'il avait écrite, Éthique à Nicomaque, il a fait une différence entre la crématistique et l'économique. Donc l'argent crématistique et l'argent économique. L'argent crématistique, c'est l'argent recherché pour lui-même sans lien avec les besoins qui sont perçus. Donc l'argent crématistique, c'est l'argent accumulé, tout simplement. On accumule de l'argent sans lien avec les besoins, sans volonté de les répartir, on accumule de l'argent. Donc c'est de l'argent cherché pour lui-même ou pour un plaisir personnel et non pour les besoins de la collectivité. C'est un argent recherché uniquement pour le gain. Gagner pour gagner. Ça, c'est la crématistique. Et l'argent économique, c'est l'argent comme outil de transaction qui permet de bien gérer la maison. L'argent utilisé pour bien gérer la maison, pour bien gérer les choses que l'on a. C'est l'argent pour lequel la norme, c'est le bien-être de la communauté. C'est l'argent qui est géré. Alors évidemment, si on est seul, c'est la même chose. On a de l'argent qu'on a reçu et on est appelé à bien le gérer en fonction des besoins, avec sagesse, devant Dieu. Nous gérons nos biens devant Dieu. Nous gérons nos biens sous le regard de Dieu et selon sa volonté. Une autre attitude biblique face à l'argent, c'est le contentement. Alors évidemment, c'est très proche de la reconnaissance. C'est l'apôtre Paul qui dit « C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Le contentement. Alors, le mot « contentement », il pose un peu problème parce qu'il est trop léger. Quand on dit contentement, ça, en français, ça veut juste dire « ouais, je suis content », enfin, dire « ouais, voilà ». C'est très léger, mais c'est plus que ça. C'est vraiment une reconnaissance et une joie de ce qu'on a. Une joie de ce qu'on a. C'est être content de ce qu'on a, mais pas content dans le sens léger, mais dans le sens « waouh, je suis content de ce que j'ai. Je suis content de ce que Dieu m'a donné ». Le contentement, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pas plus, juste ce dont on a besoin. Donne-nous notre pain quotidien. 1 Timothée 6,8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Vous voyez, quel contentement. Si j'ai déjà que ça, la nourriture, le vêtement, je suis déjà très content. Apprendre à être content pour les choses que nous avons. Être reconnaissant à Dieu pour ses dons. Se contenter de ce que nous avons, c'est avoir confiance que Dieu ne nous donne ni trop, ni trop peu. Avoir confiance du fait que voilà, ce que j'ai, ben, c'est ni trop, c'est ni trop peu, c'est ce que Dieu a voulu que j'ai. Mais aussi, c'est une attitude de sobriété. La sobriété, c'est une façon de vivre, c'est vivre dans la mesure, vivre dans la modération. Vivre avec modération, vivre dans la mesure, avec sobriété. Et donc, en fait, la sobriété nous invite à distinguer ce qui est nécessaire, ce qui est utile et ce qui est superflu. C'est ça aussi le contentement. Apprendre à distinguer ce qui est nécessaire, ce qui est utile et ce qui est superflu. Et donc, on apprend devant Dieu à être sobre. Le Seigneur, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile en fonction des biens que j'ai? Voilà. Donc, vous connaissez tous certains principes. Qu'on ne fait jamais ses courses quand on a faim. Vous saviez pas ça. Myriam, je viens de t'apprendre quelque chose là. Elle l'ignorait. Non mais voilà, on sait tous Pourquoi? Parce que quand on a faim et qu'on va faire des courses, ben on achète au-delà du nécessaire. Et finalement, on achète des trucs. Parce que quand on a faim, on mangerait même les trucs qu'on déteste. Hein? Donc voilà, j'ai à ce propos un grand conflit avec Myriam. Mais bon, ça, vous voulez connaître ce conflit? Non, vous n'avez pas envie. Non, ça, bon. Mais c'est vraiment un conflit terrible. Hein? On ne se dit plus bonjour depuis. Voilà. Bon. Et, vraiment, je l'aimais beaucoup. Mais depuis que je sais ça, ça passe plus. Elle aime les petits pois. Donc bon, ça c'est inadmissible. Bon, mais soit, c'est pas la question. Donc, c'est apprendre à distinguer ce qui est nécessaire, ce qui est utile et ce qui est superflu, et à être content des choses que Dieu nous donne. Et donc, une prière biblique que vous connaissez de Proverbes 30, versets 8 à 9, il prie en disant « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Ni pauvreté, ni richesse. On verra après que la richesse n'est pas forcément mauvaise. Mais il dit, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Il dit, si j'ai trop peu d'argent, je risque, Seigneur, d'être fâché contre toi, d'être aigri contre toi. Mais si j'en ai trop, je risque de dire... L'Éternel, j'ai pas besoin de lui. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il est difficile à des riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que quand on a tout ce dont on a besoin, on a du mal à prendre conscience qu'on a besoin de Dieu. On est rempli, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Et donc, on a du mal à se tourner vers Dieu. Et donc, il dit, Seigneur, ne me donne pas trop. Parce qu'avec trop, mon cœur va s'enfler, je vais commencer à... et je vais t'oublier. Mais ne me donne pas trop peu, parce que si j'ai trop peu, j'arriverai plus non plus à te louer, à te remercier, à te dire merci. Parce qu'on ne se rend pas compte que notre vie spirituelle est très liée à notre abondance aussi. Et si vous avez déjà fait, vous avez déjà peut-être prié dans une maison où il n'y a pas de chauffage, vous allez voir que le cœur est beaucoup moins entraîné. Déjà quand vous jeûnez, déjà. C'est quand on jeûne après 2-3 jours, la prière... Donc voilà, ça veut dire, Seigneur, donne-moi ce qui est nécessaire pour que je puisse vraiment être dans un bon état pour te célébrer, pour te louer. Alors pour terminer, nous allons voir quelques outils qui sont donnés dans un livre qui s'appelle « Le principe du trésor » de Randy Alcorn. Et là-dedans, il donne quelques outils qui peuvent aider les chrétiens par rapport à la question de l'argent. Je vais vraiment aller très vite, mais peut-être ça, nous arrêter sur ce qui est le plus important. Les clés du principe du trésor, il appelle ça. Premièrement, être conscient que Dieu possède tout. Dieu possède tout. Je suis le gestionnaire de ses biens. Nous sommes les gestionnaires des biens que Dieu nous a confiés et non pas donnés. Ce n'est pas à moi, c'est à Dieu, mais je le gère. Et s'il me le demande, je lui donne puisque c'est à lui. Deuxièmement, mon cœur se trouve toujours là où je place l'argent pour Dieu. Ça veut dire qu'en fonction de là où j'investis mon argent, on sait savoir où est mon cœur. Mon cœur va toujours aller là où est mon argent. Les gens qui sont passionnés par la pêche, ils achètent des cannes à pêche. Finalement, il y a des cannes à pêche dans toute la maison, mais ils en utilisent une par an. Exemple, hein, si vous aimez la pêche, il n'y a pas de problème. Mais donc, mon argent va toujours suivre mon cœur. Donc si mon cœur est attaché à Dieu, mon argent devrait s'en ressentir. Mais aussi, troisièmement, prendre conscience que ma résidence est au ciel et non sur la terre. Nous ne sommes pas sur terre pour nous établir sur la terre. Nous ne sommes pas sur terre pour créer un royaume éternel avec nos biens, des grandes maisons. On n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour un temps. Et nous devons, quand nous gérons nos biens, ne pas l'oublier. Nous sommes là pour un temps. Notre résidence éternelle, elle est au ciel. Quatrièmement, je dois vivre pour la ligne et non pour le point. Vivre pour le point, c'est vivre pour aujourd'hui. Vivre pour la ligne, c'est vivre pour le long terme et pour le long terme qui finit dans l'éternité. Donc je ne dois pas vivre pour aujourd'hui, je dois vivre pour l'éternité. Et ça s'en ressent dans là où on investit notre argent. On avait vu la citation de Tozer la dernière fois, dans laquelle il dit que l'argent peut devenir éternel en fonction de ce dans quoi on l'investit. Si vous prenez 1000 euros et que vous le donnez à un missionnaire qui va gagner des âmes on ne sait où, mais l'argent devient éternel parce qu'il lui permet de faire des choses qui vont avoir un impact éternel. Les âmes gagnées, ce n'est pas pour 3 jours. Et donc, nous devons vivre pour l'éternité. Cinquièmement, donner est le seul antidote au matérialisme. Comme chrétien, Dieu nous aide en nous disant de donner. Parce que le fait de donner, c'est un antidote contre le matérialisme, contre l'attachement à ses biens, l'attachement aux biens matériels. Et sixièmement, Dieu m'accorde la prospérité, non pas pour améliorer mon niveau de vie, mais pour améliorer mon niveau de libéralité. Dieu nous donne plus d'argent que le nécessaire pour que nous puissions donner avec générosité. Donc être riche pour un chrétien, ce n'est pas un problème. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle, ne partez pas. Donc être riche, ce n'est pas un problème devant Dieu. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos richesses? Je prie que vous deveniez riche, qu'on devienne riche. On peut prier pour la bénédiction matérielle, vous savez. Ce n'est pas ça l'évangile de prospérité. Hein. L'évangile de prospérité, c'est de considérer que la bénédiction se réduit aux financiers. Mais être béni financièrement, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais avec cet argent? Est-ce qu'il ne sert qu'à moi? Ou est-ce que je le gère comme Dieu veut que je le gère, en fonction des besoins que Dieu amène devant moi? C'est la seule question qui est importante. Mon engagement financier, ça c'est en fait un engagement financier qu'il propose aux chrétiens pour un peu leur donner des pistes de comment est-ce qu'ils peuvent s'engager financièrement devant Dieu. Premièrement, j'affirme la pleine propriété de Dieu sur ma personne et sur tout ce qui m'a été confié. Donc c'est pour ça que je connais des gens dans leur langage qui font attention à ça. Ils ne disent, disent pas ma maison, par exemple. Ils ne disent pas ma maison, ils disent la maison. Ils ne disent pas ma voiture, ils disent la voiture. Ça les aide à rester toujours conscients que ce n'est pas à moi. Ça m'est confié. Deuxièmement, je mettrai à part les prémices, au moins 10% de tout salaire et dons reçus, en les considérant comme saints et exclusivement réservés à Dieu. Ça veut dire, dans ma gestion financière, je vais considérer qu'il y a une part qui est pour Dieu et pour son royaume. Troisièmement, avec le reste des richesses que Dieu me donne, je chercherai à faire des dons volontaires généreux. On est dans le superflu ici. Hein. Donc, on n'est jamais appelé à donner du nécessaire de notre vie, mais en tout cas, dans le superflu, on est appelé à donner. Quatrièmement, je demande à Dieu de m'enseigner à consentir des sacrifices financiers pour faire sa volonté. Je demande à Dieu de m'enseigner ça, de m'enseigner les sacrifices nécessaires. Et cinquièmement, reconnaissant que je ne peux pas emporter des trésors terrestres dans l'au-delà, je décide d'investir dans des trésors célestes pour la gloire de Christ et pour le bien éternel d'autrui et de moi-même. Ça veut dire que j'essaye d'orienter mon argent vers ce qui est éternel. Raison pour laquelle les associations caritatives, les églises, etc., doivent avoir des finances transparentes, intègres. Parce que tant et tant de gens donnent de l'argent, il ne s'agit pas qu'il y ait des magouilles et qu'on ne sache pas où. Non, ça doit être intègre, ça doit être transparent, parce que cet argent doit être affecté pour le royaume de Dieu et uniquement pour le royaume de Dieu. Et les impôts, ça, on passe vite. De toute façon, on en a déjà parlé l'année passée. On sait que la Bible nous appelle à payer les impôts. Un autre engagement, je gère mes finances et les biens que Dieu me confie de manière honnête et transparente. Je remplis ma déclaration d'impôts honnêtement et je suis conscient de l'importance des impôts dans la construction de la vie communautaire. Hier, quelqu'un disait, l'État me prend tout mon argent. L'intégrité, c'est être droit, être juste, être incorruptible, être loyal, être honnête, être entier. Dieu nous appelle à être intègre avec nos biens, à marcher droit devant lui avec nos biens. Alors, on va terminer, on va la lire et puis on va faire cette prière ensemble. Une prière d'examen de soi, parce que toutes ces choses qu'on a dit pendant 3 dimanches, ce n'est pas juste pour que ce soit intellectuel, mais pour que ça se matérialise dans nos vies. Et encore une fois, ça doit se matérialiser de façon personnelle. Une vie n'est pas l'autre. Nous n'avons pas tous les mêmes vies, nous n'avons pas tous les mêmes réalités, nous n'avons pas tous les mêmes salaires. Chacun a sa vie, sa réalité, et nous devons apprendre, nous devons laisser Dieu nous apprendre comment nous pouvons mettre ces choses en pratique dans notre réalité à nous. Cette prière qui est dans le livre sur l'argent et la Suisse. Sonde mon cœur, Seigneur. Sonde mon cœur. Es-tu d'accord avec la manière dont je gère mes finances ? C'est ça la question qu'on se pose tous ce matin devant Dieu. Seigneur, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que la façon avec laquelle je gère mes finances, est-ce que ça te plaît ? Est-ce que tu es content de ma façon de gérer mes finances ? Montre-moi les domaines où je suis prisonnier de la cupidité insatiable qui veut toujours plus. Montre-moi s'il y a des domaines dans lesquels je suis insatiable, dans lesquels je suis cupide. Montre-moi. Seigneur, trop souvent, nous nous reposons sur nos biens. En cela, nous t'oublions, toi le Seigneur qui pourvoit. En faisant cela, nous exposons nous et nos enfants à de grands dangers. Pardonne-nous. C'est aussi ça, une prière de repentance. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai mal géré mon argent. Montre-nous, Seigneur, si nous gérerons notre argent de façon juste. Et tout ça ne doit pas nous amener dans une austérité. Utiliser de l'argent pour son plaisir n'est pas un problème. Le problème, c'est que généralement, globalement, nous devons gérer nos finances devant Dieu. Et devant Dieu, ça veut dire aussi la bénédiction d'acheter des choses, la bénédiction d'aller en vacances, tout ça aussi. Mais tout cela doit se faire devant Dieu. Seigneur, montre-moi. Au besoin, demandons au Seigneur que son esprit purifie notre relation à l'argent. Et au besoin, qu'il opère une libération spirituelle en nous. Quand Mammon est incrusté dans un cœur, dans une vie, parfois il faut que l'esprit agisse puissamment pour nous délivrer. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie, ta parole qui conduit nos chemins. Merci Seigneur pour tant d'enseignements dans ta parole. Merci parce que nous sommes tes enfants et que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, mais que tu nous conduis dans chacune de nos vies. Merci Seigneur pour ce parcours sur l'argent. Maintenant que nous sommes à la fin, Seigneur, nous voulons vraiment te demander de nous éclairer. Viens et sonde nos cœurs. Chacun peut dire ça dans son cœur aussi. Seigneur, viens et sonde mon cœur. Sonde mon cœur et montre-moi si je suis sous la domination de Mammon. Montre-moi si je suis cupide. Montre-moi si je suis avare. Montre-moi si je gère mal mes biens. Montre-nous, Seigneur. Éclaire-nous, éclaire nos cœurs. S'il y a des ténèbres, chasse-les. Seigneur, nous voulons vraiment te prier de nous aider à examiner notre relation à l'argent. Te demandons que tu travailles en nous pour que notre relation à l'argent soit saine. Qu'elle soit saine, Seigneur. Que chacun aussi prie dans son cœur. Et Seigneur, nous te demandons aussi de pardon pour toutes les fois où nous avons peut-être mal géré notre argent. Toutes les fois où nous avons été avares, cupides. Parfois, nous avons été dominateurs sur l'argent. Toutes les fois, nous avons fait du mal aux autres à cause de l'argent. Pardonne-nous, pardonne-nous. Purifie aussi nos cœurs. Seigneur, aide-nous aussi à considérer nos biens comme étant à toi. Aide-nous à les gérer comme il te plaît. Aide-nous, Seigneur, à vraiment être remplis de discernement, à pouvoir être sobre dans nos plaisirs, à pouvoir être généreux, et en même temps à bien gérer notre famille, nos biens, notre réalité. Seigneur, nous te prions pour chacun de nous, pour chacune des personnes qui est dans ce lieu. Seigneur, aide chacun à comprendre comment est-ce qu'il peut mettre en pratique cet enseignement dans sa vie. Nous sommes tous différents, Seigneur, et vraiment, que ton esprit nous conduise, nous guide, et aussi qu'il nous libère au besoin. Peut-être que nous avons besoin d'une libération, Seigneur, fais-la dans nos cœurs aussi. Et aide-nous à te glorifier dans nos vies avec nos biens. Aide-nous à être bénis matériellement, mais à te glorifier avec nos biens. C'est par Jésus-Christ que nous recevons ta parole et que nous te prions. Amen.